retrouver Rose pour l'émission Contradiction sur IDFM Radio, un temps dédié aux gens qui se donnent du mal pour aller bien.
Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies.
Quand je parle d'enfance autour de moi, parce que évidemment c'est un sujet qui arrive très tôt, tout le monde est touché parce que tout commence dans l'enfance. Et t'as raison, les addictions, elles viennent se loger là aussi.
Depuis 4 ans, elle illumine les salles de classe avec son enthousiasme contagieux et sa passion débordante pour l'enseignement. Après avoir étudié le droit et l'économie, travaillé en tant qu'attachée de presse 9 mois avec son sac à dos à travers le monde, habité Moscou, notre invitée a choisi de donner un nouveau sens à sa carrière et à sa vie tout court en se tournant vers l'éducation. Voix influente sur les réseaux sociaux avec plus de 250 000 abonnés sur son compte Instagram La Vie d'enseignante et des vidéos à plus de 6 millions de vues, elle partage son quotidien de professeur des écoles avec une authenticité désarmante. C'est frais, c'est simple et tellement utile. Sa mission, changer notre perception des enseignants et révéler la beauté de ce métier si souvent méconnu, voire méprisé. Paris réussit. Mais Anna n'est pas seulement une éducatrice passionnée, elle est également une penseuse positive et une ingénieuse pédagogue, toujours à la recherche de nouvelles méthodes pour répondre aux besoins de ses élèves. Elle crée un environnement d'apprentissage dynamique et ludique, de l'accueil matinal en anglais aux rituels comme le club des poètes, en passant par des ateliers sur les émotions, des activités artistiques, théâtrales et des débats. Elle valorise et encourage la lecture, favorise l'intelligence collective et compose elle-même des chansons pour rendre le travail de mémorisation plus captivant. Je pourrais vous énumérer encore des dizaines d'exemples qui vous donneraient envie de retourner à l'école ou de mettre vos enfants dans sa classe. Parce que personne ne s'ennuie ni n'est laissé pour compte avec Anna. Chaque enfant trouve sa place et son espace, et la joie qui règne dans sa classe pourrait presque vous redonner foi en l'avenir, malgré les défis auxquels nos enfants font face dans une société individualiste et numérique. Empathique, attentive à la santé mentale de ses élèves, elle ne sait que trop bien à quel point les addictions peuvent être des réponses inconscientes de l'enfant incompris, délaissé ou pire violenté. Elle a connu elle-même les affres des troubles du comportement alimentaire et ce qui l'a sauvée, trouver du sens et être dans la joie grâce à l'apprentissage, une véritable drogue pour elle. Travailler ensemble, apprendre à s'écouter, à se faire confiance, voilà, selon Anna, un des rôles principaux de l'école. Et si tout se jouait en primaire ? Merci Anna d'être avec nous pour répondre à nos questions, mais aussi inquiétudes au sujet de nos enfants.
Bah merci beaucoup, je suis émue de la description.
Je pouvais pas faire plus poétique, il y avait tellement de faits. En fait, c'est très factuel ce que tu fais, on va pas passer par mille chemins pour dire que ta façon d'enseigner est presque exceptionnelle. Est-ce que tu as l'impression d'être un ovni, une exception, ou est-ce qu'il y a d'autres profs comme toi ?
Je pense qu'il y en a énormément des profs comme moi, et d'ailleurs sur les réseaux sociaux, la communauté des enseignants, notamment au primaire, elle est assez dense. Il y a beaucoup de gens qui partagent parce que être enseignant au primaire, c'est un métier tellement créatif qu'il y a beaucoup d'espace pour partager sa créativité. Il y a tellement de choses à faire avec les enfants et dans une classe. Après, c'est sûr que moi, mon parcours, il m'a mené à ce métier de manière non académique, même si j'ai fait des études supérieures. Mais je suis arrivée dans l'enseignement avec un regard complètement différent. Je n'avais pas été formatée par le jargon de l'éducation nationale, je n'avais pas eu d'enseignement à proprement parler de pédagogie, donc j'ai vraiment tout appris toute seule sur le terrain, avec mes collègues, avec mon école, en m'inspirant aussi de gens comme Céline Alvarez, comme Maria Montessori, comme d'autres pédagogues et d'autres personnes qui avaient un regard vraiment innovant sur la pédagogie.
Ça renforce un peu ma position sur l'autodidacte. Je trouve que c'est la liberté de l'autodidacte rend tout ce qu'il fait créatif, en fait, parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas appris à droite ou à gauche, il l'a sorti de lui-même, quoi. Et toi, on sent vraiment ce truc-là. Alors après, tu t'inspires de plein de méthodes, comme tu viens de le dire. Est-ce que, comme on pourrait parler d'éducation à pure et dure, mais on est quand même dans un podcast pour parler des addictions, mais surtout de comment ne pas tomber dedans, ça va être plutôt ça aujourd'hui, et comment faire en sorte que nos enfants soient des gamins épanouis, des ados plutôt créatifs que dans l'ennui. Mm. Hein, moi, je viens de voir Vice Versa 2, c'est exceptionnel.
Bah moi aussi, hier soir,
justement. Il faut qu'on en parle. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'addiction ?
Je pense que pour moi, l'addiction, c'est la privation de liberté ultime. J'ai une scène en tête, qui est une scène biblique. C'est lorsque Moïse libère les Hébreux d'Égypte. Ils sortent, ils traversent la mer des joncs. Ils arrivent de l'autre côté et là, un groupe d'Hébreux lui dit « Bah, ramène-nous en Égypte, c'était tellement bien, il y avait des poireaux et des oignons. » Et c'est vrai que c'est une scène vachement surprenante parce que on a quelqu'un qui libère tout un peuple de l'esclavage et une partie de ce groupe veut retourner, veut redevenir esclave. Et ça illustre très bien ce que c'est l'addiction finalement.
Donc du coup, il y a vraiment le syndrome de Stockholm dedans.
Ouais,
toi.
Exactement. C'est
aimer son geôlier.
Aimer son geôlier. Et quand on est addict, bah, on est son propre geôlier. Et finalement, on a envie de retourner dans ce qui nous fait le plus de mal. Et ça, c'est vraiment un mystère. Pourquoi est-ce qu'on aime tant se faire du mal? Pourquoi est-ce qu'on aime tant être prisonnier? Pourquoi on n'aspire pas à la liberté plutôt qu'à autre chose? Et alors moi, j'ai arrêté de fumer il y a plusieurs années. Et je me souviens que le fait d'arrêter de fumer, ça a été pour moi une grande libération. Et quand aujourd'hui, j'ai encore des pensées, parce que j'en aurai toute ma vie, je pense, hein, quand on a fumé beaucoup, moi j'ai beaucoup fumé, et ben je regarde les gens qui fument. Alors ma première pensée, c'est oh là là, une bonne petite clope là avec mon verre de chardonnay, ça serait nickel. Et en fait, juste après, je me dis, mais moi, je suis libre. Je suis libre et j'ai pas besoin de ça pour passer un bon moment. L'addiction, c'est une grande privation de liberté.
Mmh. Alors Anna, qu'est-ce qui t'a poussée à quitter ta carrière d'attachée de presse? Parce que tu étais là-dedans, tu es dans le RP un petit peu. Dans quoi d'abord?
J'étais dans une agence de com et ouais. J'avais des clients et je m'occupais un peu de leur communication digitale et presse.
Ok, donc déjà la com, c'est ton truc.
Ouais, j'ai beaucoup toujours aimé communiquer, parler, raconter.
Et tu le fais hyper bien. Qu'est-ce qui t'a justement donné envie d'aller aux premières loges de tout, en fait, à la source?
Moi, j'avais envie d'une vie passionnante. J'ai eu ma maman, elle est un peu comme la mère de Romain Gary.
Wow, donc tout est possible.
Tout est possible. Elle m'a toujours dit que si j'avais envie, je pouvais être présidente, que je pouvais faire de grandes choses. Et elle m'a toujours poussée comme ça vers un avenir passionnant. Donc moi, j'ai toujours eu envie que ma vie soit palpitante, intéressante, passionnante. Donc j'ai fait le tour du monde en sac à dos. Ensuite, je suis allée faire mes études à l'étranger. Et puis, quand je suis rentrée et que j'étais dans cette boîte avec un taf classique, 9h-18h, et que je sentais que en fait mon travail n'avait pas vraiment d'impact positif sur la société, ça ne m'a pas plu. Moi, j'étais engagée, j'ai jamais été militante dans le sens où j'ai pas milité pour un parti ni rien, mais j'étais militante dans mon état d'esprit et je le suis toujours aujourd'hui.
Militante pour la joie, en fait.
Ouais, hein. J'avais envie que les choses aient du sens. J'ai toujours été la première qui allait enclencher le débat passionné et même si quitte à changer d'avis plus tard, mais je me suis dit que voilà, je n'allais pas passer toute ma vie dans un bureau, donc j'ai changé de voie. Après le Covid, parce que le Covid, je pense que ça nous a tous un petit peu chamboulés et que ça nous a permis de remettre les priorités en face des trous. Et puis, je pense que pour être enseignante, moi, j'ai aussi un chemin de construction, de reconstruction personnelle. Tu en as parlé dans ton introduction, mais j'ai assez longtemps été quand même boulimique. Donc, c'était assez dur de se construire, d'avoir une vie saine et équilibrée quand on a un trouble du comportement alimentaire aussi lourd. Et puis, après ces deux années-là, bah, j'avais le sentiment d'avoir construit quelque chose, une stabilité et de savoir ce que je voulais. Et donc, quand j'ai commencé à enseigner, j'étais déjà bien vis-à-vis de moi-même. J'étais pas perdue, en proie à trop de démons, j'en ai toujours et on en a tous, mais je me sentais prête à vraiment donner et m'investir à plein temps dans un travail qui allait me prendre tout mon temps et qui c'est le cas aujourd'hui, mais j'en suis très heureuse.
Et juste pour savoir, comment est-ce que justement on a des troubles du comportement alimentaire avec une éducation aussi libre, tu vois?
Bah, c'est peut-être ça en fait qui m'a poussée là-dedans. En fait, j'ai eu donc une enfance assez libre. Moi, ma mère, elle me laissait faire à peu près ce que je voulais tant que ça ne contrevenait pas à ma santé. C'était la règle. Et j'avais besoin de cadre pour être épanouie. J'avais besoin d'un cadre pour être heureuse et j'avais un manque que j'essayais de combler à tout prix. Et je pense que ce manque-là, c'était ce manque de régularité, de cadre. Et aujourd'hui, en travaillant avec les enfants, je vois que quand on est un enfant, on a tellement besoin de ça, d'un rituel. J'ai beaucoup d'amis qui ont des tout petits bébés. Et à chaque fois qu'elles font appel à des spécialistes du sommeil, finalement, ils leur disent la même chose.
Rituel,
il faut
rituel,
faire un rituel, en fait, avant de dormir. Et ça doit toujours être le même. Et c'est ça qui va garantir la sérénité, parce que le sommeil, c'est ça aussi. C'est le moment où on lâche prise, où on s'autorise à être vulnérable. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup manqué. Alors, une grande liberté, ça m'a permis de me définir exactement comme moi j'avais envie de me définir, mais le revers de la médaille, c'est que j'ai pas eu suffisamment de cadre. Et donc, je l'ai cherché. Et je suis passée par des phases un peu plus sombres, des phases d'addiction. Je pense que l'addiction, le trouble du comportement alimentaire, il se rapproche beaucoup des phénomènes d'addiction finalement, parce qu'on ne peut pas s'empêcher, on n'est pas libre. Moi, toute ma vie passait par à quoi je ressemblais, ce que j'allais manger. Je me disais même que quand je serais plus mince, quand je ressemblerais à ça, ma vie serait meilleure. Et tout était conditionné à ce futur, cet horizon qui n'est jamais arrivé et qui n'arrivera jamais.
Et qui, donc, surtout, s'il arrivait, en fait, ne changeait rien à l'intérieur de soi.
Ne changerait rien, absolument rien.
Donc, à chaque fois qu'on se dit quand je serai ou quand j'aurai, il faut savoir qu'on est dans l'erreur. C'est-à-dire qu'on subordonne notre bonheur à quelque chose d'hypothétique et futur, tout ça pour fuir le présent et ne pas s'accorder la joie d'être en vie maintenant, ici.
Oui, et puis ce quand, en fait, moi je me disais aussi, je vais réparer toutes mes erreurs, en fait. Quand je me sentirai mieux et que je serai très mince et que j'aurai plus ces troubles, je serai réparée.
Mais comment t'as fait alors? Parce que moi je te vois, je t'ai rencontrée extrêmement libérée de ça, j'ai l'impression. Enfin, après, voilà, souvent on sait pas la réalité, mais j'ai cette impression-là. Et surtout avec ton corps, je te trouve extrêmement bien dans tes baskets et ça change tout.
Bah oui, moi je suis là, ça y est, j'en suis complètement libérée. La première chose que j'ai faite, c'est que je suis partie. Je suis partie voyager pendant 9 mois. Alors, c'est pas la première chose que j'ai faite en réalité, non, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que mon médecin de famille avait alerté mes parents, chose qu'il ne fait jamais puisqu'il est censé garder de manière confidentielle toutes les choses que je lui dis, donc c'est que c'était suffisamment important pour qu'il les alerte. Et j'ai réussi à convaincre mes parents que tout allait bien. Et c'est là que j'ai réalisé que j'allais être seule et qu'il fallait impérativement que je me vienne en aide. Quelques mois plus tard, j'ai pris rendez-vous chez une spécialiste du trouble du comportement alimentaire et j'ai commencé une thérapie avec une psy. Et c'est ça qui m'a sauvée. En fait, je pense que dans l'addiction, il y a aussi cette idée, ou dans les troubles, qu'on ne peut s'aider que soi-même. Les gens, ils sont là, ils seront toujours là. C'est-à-dire, montrer à quelqu'un qu'on est là et qu'on sera toujours là s'il a besoin, ça permet d'être une sorte de marche, une béquille. Mais cette décision...
La décision ne peut
venir que de soi-même.
Pour moi, l'addiction, elle révèle vraiment une pauvreté de vie intérieure. Quand tu nourris ta vie et que ta vie intérieure devient riche, t'as beaucoup moins besoin de quoi que ce soit.
C'est vrai. Ça, hein.
Et c'est pour ça qu'on va parler beaucoup de l'apprentissage et de ce qui, justement, t'a nourri, toi. En quoi le fait d'avoir surmonté tes propres difficultés t'aide quelque part à être une meilleure enseignante? Est-ce que tu sens aussi ça, que tu peux les aider sur ces plans-là?
Je pense que j'ai toujours gardé en moi ce souvenir de ce que c'est d'être un enfant. Ce souvenir d'une détresse qu'on peut cacher parfois, qui est immense et qu'on ne peut dire à personne. Moi, j'avais des parents divorcés, donc ça m'arrivait quand j'étais chez l'un ou chez l'autre de ressentir comme si j'avais un énorme secret que je ne pouvais pas livrer parce que j'avais des éducations complètement différentes des deux côtés et j'avais envie de conserver l'amour de mes deux parents. Et même à l'école, il m'est arrivé de me sentir en détresse, de ne pas me sentir comprise. Heureusement, j'ai croisé le chemin de professeurs exceptionnels qui ont changé ma vie, mais j'ai aussi rencontré des professeurs qui manquaient terriblement d'empathie et qui voyaient que parfois certains élèves se sentaient mal, mais qui ne faisaient rien pour autant. Quand j'étais petite, je me disais, je ne veux jamais oublier ça, parce que j'en voulais beaucoup aux adultes d'avoir oublié qu'ils avaient été des enfants. Et donc ça déjà, ça m'a énormément aidée dans mon travail et ça m'aide au quotidien. Et d'ailleurs, dès que je m'éloigne un peu de ça, j'essaie de me souvenir. Je veux conserver ça parce que je sais à quel point c'est important et surtout... Voilà, maintenant, mes élèves, ils ont 8 ans. Peut-être que je vais dire des choses et je n'ai aucune idée de comment ça va résonner. Peut-être que chez certains, ça ne résonnera pas. Et chez d'autres, ça va peut-être rester. Et ils s'accrocheront à ça à d'autres moments dans la vie, quand ils en auront besoin, quand ils auront envie de réaliser leurs rêves, quand ils auront besoin d'une ressource intérieure, de savoir qu'il y a quelqu'un qui a cru en toi, vraiment. Ouais. Là, on a fait le spectacle de fin d'année, il y a quelques jours. Et puis, j'ai une élève à qui j'ai donné le premier rôle. J'adore donner les premiers rôles de mes spectacles à des élèves qui en ont besoin. Donc, ça peut être des élèves introvertis, ça peut être des élèves qui ont besoin de ça en ce moment. Et donc, j'ai donné ce rôle-là à une de mes élèves parce que je savais que ça lui ferait du bien pour sa confiance en elle et son assurance. Elle était extrêmement paniquée parce qu'elle ne pensait pas être à la hauteur. Et juste avant le spectacle, elle est arrivée, elle pleurait, elle avait peur de tout oublier, d'avoir oublié son texte. C'est un peu la panique classique avant de monter sur scène. Et donc, j'écris mes propres spectacles. C'est des spectacles longs, ils durent au moins une demi-heure. Donc, c'est quand même... Et elle avait le rôle principal, donc c'est quand même un enjeu pour elle. Et je lui ai pris les mains et je lui ai dit, je suis sûre que tu es capable. Si je t'ai donné ce rôle, c'est parce que je sais que tu es capable. Et là, elle s'est arrêtée de pleurer. Elle a respiré, elle avait besoin d'entendre ça à ce moment-là. Et après le spectacle, elle m'a dit « Maîtresse, c'est ce que tu m'as dit qui m'a aidée. » Et elle a été évidemment brillante, elle n'a pas fait une seule faute. Elle connaissait son texte par cœur et elle jouait super bien. Tout le monde était super impressionné de sa prestance sur scène. Donc voilà, c'était un très beau moment. Et ça, je sais que ça peut construire.
Bah, c'est ça pas peut que ça rester, peut, c'est sûr et certain.
Voilà. On vit dans une société dans laquelle les enfants, de manière générale, sont ignorés au mieux, ou alors complètement exclus de la société, maltraités, on leur parle mal. C'est complètement normal.
L'enfantisme.
C'est l'enfant, exactement.
J'ai vu cette vidéo sur ton compte, elle est exceptionnelle. Allez sur le compte de Anna, hein, c'est la vie d'enseignante. C'est exceptionnel. Moi, j'ai appris des choses incroyables.
Et donc, ce concept-là, c'est l'idée que notre société, elle est discriminante vis-à-vis des enfants. On peut prendre des exemples du quotidien. Le ton qu'on va employer avec un enfant pour lui dire de faire quelque chose, lui demander de faire quelque chose, on n'oserait jamais parler de cette manière à un adulte. À aucun moment, c'est on vrai, pourrait hein. se permettre de dire « tu fermes la porte ?» de cette manière. Si je t'avais dit ça en arrivant dans le studio, ou si tu m'avais dit ça en arrivant dans le studio, bah, tu te serais certainement un peu retourné avec un regard étonné et tu m'aurais dit « mais enfin, ça va pas !» C'est cette attitude-là qu'on nous, on a subie. Et qu'on fait subir aux enfants autour de nous, puisqu'on ne connaît que ça. Ouais. On ne connaît que ça. Donc, même si on a les meilleures intentions, même si on arrive en classe en se disant, évidemment, qu'il faut bien parler aux enfants, qu'il faut les traiter avec respect, bah, c'est plus fort que nous. Et donc, il faut se rééduquer. Et plus vite on se rééduque, nous, adultes, plus vite on va apprendre aux enfants à agir de cette manière. Et moi, je me dis très souvent ça en classe. Je me dis, si je leur montre que les adultes parlent correctement aux enfants, les respectent, ne crient pas, et ben eux aussi, quand ils seront adultes, ils vont garder cette attitude-là. Et c'est super important parce que comment est-ce qu'on peut espérer vivre dans une société en paix, dans le contexte actuel extrêmement anxiogène, qui nous fait peur, une société dans laquelle on se respecte les uns les autres, on se juge pas, on se parle bien, on parle de la brutalisation du débat politique par exemple, mais on a toute notre vie été éduqués comme ça à être brutaux les uns vis-à-vis des autres, à avoir des mots qui étaient pas respectueux en fait de nos sentiments, de nos émotions, et c'est pas du tout cucu de dire ça, c'est tout simplement...
Il faut rééduquer. En fait, le rôle de l'école, il n'est pas seulement avec les enfants. J'ai l'impression que tu as un rôle aussi avec les parents.
Avec les parents, bien sûr. Et moi, j'apprends énormément aussi. Je sais qu'en tout début de carrière, il y a 4 ans, même si c'était il n'y a pas très longtemps, bah, j'étais une moins bonne enseignante et je parlais certainement moins bien à mes élèves. Mais aujourd'hui, quand j'arrive en classe, bah, c'est mon objectif principal. C'est le numéro 1 sur la liste.
Le respect.
C'est le respect. C'est leur parler avec respect. Parce que c'est très dur. C'est très dur. Alors que j'en ai tout le temps conscience. Mais c'est très dur de se rééduquer. Parce que comme on a une autorité sur eux qui est nécessaire puisqu'il faut que la classe fonctionne, voilà, c'est notre nature humaine, c'est notre pente glissante à tous. On a tendance à abuser de cette autorité. Et nous, on est responsable de ce lien-là. En fait, c'est une responsabilité d'être avec des enfants. On en est responsable et on doit honorer cette responsabilité en faisant de notre mieux pour ne pas abuser de cette autorité et l'utiliser pour eux, pour qu'ils puissent apprendre dans un cadre sécurisant, pacifique, qu'ils puissent apprendre en ayant confiance en eux, tout en leur disant bah voilà, ce qu'il faut améliorer, en étant honnête en fait et sincère. À mes élèves, je leur mens pas. Je leur dis, bah oui, là, il faudrait que tu améliores ton écriture, mais je vais t'aider, je vais t'accompagner, on va faire ça, tu es capable de le faire. Je leur dis pas que tout est parfait et qu'ils sont les meilleurs. Je leur dis que toutes les ressources, ils les ont. Et que même s'ils sont un peu différents des autres, qu'ils sont plus lents, qu'ils sont plus rapides, qu'ils comprennent pas très bien ça, ils peuvent le faire. Mais je leur dis la vérité. Parce que ça, c'est important aussi. On a un rapport de sincérité avec les gens. Moi, je supporte pas qu'on mente aux enfants, qu'on leur dise, mais si, c'est parfait ce que t'as fait. Bah, quand c'est pas parfait, c'est pas parfait. Mais par contre, comment est-ce qu'on va faire pour que ça devienne mieux et que toi, tu te sentes mieux là-dedans?
Toi, ça, c'est très, très, très émouvant. Et sa façon de parler, si tous les enseignants pouvaient apporter ça, c'est incroyable parce que en fait l'addiction elle vient se loger dans des manques d'estime, dans des choses extrêmement violentes et le temps que tu passes toi avec des élèves, je veux dire tu es tout à fait capable toi de changer leur vie mais complètement, c'est-à-dire que l'attention que tu vas leur donner, l'amour, la confiance que peut-être leurs parents leur donnent pas parce que oui, tu viens en fait renforcer leur confiance et leur estime.
Bah moi aussi, ça m'émeut même de faire ce métier, d'en parler avec toi, parce que bah c'est toute ma vie, elle est au service de cette mission maintenant. Donc, mais j'en suis très heureuse. Mais c'est vrai que parfois, je suis désespérée parce que je vois que on a tellement de travail encore à faire et à la fois bah, le fait que quand on en parle, tu vois, quand je parle d'enfance autour de moi, parce que évidemment c'est un sujet qui arrive très tôt, bah, tout le monde est touché parce que tout commence dans l'enfance. Et t'as raison, les addictions, elles viennent se loger là aussi.
Est-ce que tu vois, toi, dans ta classe, par exemple, t'es capable de repérer des comportements addictifs chez les enfants ?
Alors, il y a un vrai sujet autour des écrans. Ça, c'est évidemment une grosse inquiétude des parents, de nous, enseignants. Les écrans, oui. Je remarque que certains enfants passent beaucoup de temps dans les écrans parce que je regarde leur capacité attentionnelle en classe. Elles sont réduites. Ils sont très fatigués, beaucoup plus fatigués que les autres enfants. Et à la fois, je vois aussi que les parents sont dépassés par ces usages. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant et inquiétant. Les parents ne savent pas, en fait, ce que font les enfants devant les écrans. Déjà, à 8 ans, ils peuvent faire plein de choses dont les parents n'ont même pas conscience. Ils ne se rendent pas compte, malgré les filtres, malgré le contrôle parental. Ils ne se rendent pas compte et ils ne veulent pas s'en rendre compte parce qu'eux ont cette addiction. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. C'est qu'on est nous-mêmes addicts aux écrans. Nous, on a en tout cas un rapport aux écrans qui
dysfonctionnel.
Est dysfonctionnel parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Moi, sur mon téléphone, j'ai un contrôle. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure et demie sur Instagram et sur les réseaux sociaux, il s'arrête. Et ce n'est pas moi qui ai le code. Donc je ne peux pas.
C'est comme mon fils.
Comme une enfant.
C'est ton mec ?
C'est mon fiancé. Exactement. Mais parce que je sais que je suis incapable, pour l'instant, de vraiment me réguler. Et en plus, comme je publie et que c'est aussi mêlé à la vie professionnelle, etc., il faut qu'il y ait un garde-fou. Absolument.
Et puis, t'as l'addiction quand même au retour, au like et aux vues. Parce
sûr,
que quand on a 6 millions de vues sur une vidéo, j'imagine qu'on est en dopamine surproductive.
C'est ça, c'est sûr. Mais c'est évident. Donc, il fallait trouver un moyen de réguler.
Et tu vis des highs. Quand une vidéo démarre, celle du cul, là, et le 5 et le coq, tu peux nous la faire ?
Toc toc toc, qui est là? C'est le cul, c'est le queue. Quel plaisir, monsieur le queue.
Elle a des dizaines de chansons comme ça. Les enfants apprennent en hurlant de rire et de joie. On ne dirait pas qu'on est à l'école, on dirait qu'on est au spectacle de guignol, quoi.
Bah d'ailleurs, alors je termine sur cette page, comme ça après je reprends sur
la
dopamine d'apprentissage, mais sur l'addiction aux écrans des enfants, il y a une première étape qui est indispensable, qui est avoir déjà juste du recul sur son propre usage à soi, quand on est enseignant, quand on est parent. Qu'est-ce qui fait que moi, j'arrive pas à arrêter de regarder des vidéos, j'arrive pas à arrêter de regarder Twitter, ou j'ai toujours besoin de mon téléphone, ça me rassure, parce que ce téléphone, il a un rôle dans notre vie, il vient combler quelque chose, et déjà, en avoir conscience, bah, ça peut nous permettre aussi de comprendre les comportements des enfants. Mmh. Donc, sur cet aspect-là, je pense qu'il y a du travail, mais on peut s'éduquer, on peut essayer de comprendre. Et je trouve qu'il faut aussi s'éduquer à ce qui se passe sur Internet. Comment fonctionne Internet ? Comment fonctionnent les données ? On doit le savoir. C'est comme quand on vit dans une société de droit. Bah là, moi, je sais, quand je suis rentrée en première année de droit et que j'ai appris que quand j'achetais un croissant à la boulangerie, je contractais un contrat. J'étais ébahie parce que je ne savais pas que j'étais un sujet de droit jusqu'à ma première année de droit. Et c'est indispensable de le savoir parce que on vit dans une société, dans un état de droit, et on doit savoir comment fonctionne notre société. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est pareil sur Internet. Que font mes données quand je les publie? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon enfant quand il regarde une heure de vidéo sur YouTube? On doit comprendre comment fonctionne Internet, et il y a de plus en plus de moyens de s'éduquer en ligne là-dessus. Je pense que c'est pas la peine d'être paniqué à cette idée.
Oui, c'est
mais
ça aussi.
Il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer comme pour tout, faut apprendre.
Comme pour tout, oui. Et en fait, c'est encore l'apprentissage là.
Exactement.
Qui est la voie du salut, quoi.
Et après, on fait ses propres choix. On est éclairé. On sait ce qui se passe. Et ensuite, on fait ses choix pour ses enfants, pour sa famille. On décide.
Encore une fois, c'est très spinoziste. C'est-à-dire qu'on connaît les causes qui nous déterminent et au moins on agit, comme tu dis, en étant éclairé.
On sait. Et après, si on décide de continuer à faire comme on faisait, soit, mais en revanche, on connaît les conséquences. Donc quand ces conséquences, elles arriveront vraiment, on ne sera pas surpris, on ne sera pas étonné, parce qu'on savait quels étaient potentiellement les risques.
Bien sûr.
Donc ça, je pense que c'est important. Le gros problème des écrans aujourd'hui, et je ne sais pas pourquoi ce n'est toujours pas fait, mais la cigarette. On lutte contre l'addiction à la cigarette en France par le prix du paquet de cigarettes. Donc voilà, tout simplement, en fait, tous les ans, le prix du paquet de cigarettes augmente. Aujourd'hui en France, un enfant de 2 ans, il peut passer 2 heures devant un écran. Il n'y a pas de régulation. On ne sait pas qui regarde les vidéos. Ils n'ont pas besoin d'un code d'accès pour entrer en fonction de leur âge. Donc c'est évidemment du rôle des parents, mais c'est surtout, ça doit surtout être une décision étatique.
Bien
c'est
sûr.
L'État qui doit mettre en place de
Bien
véritables
sûr.
Régulations. Par
Notamment
exemple.
Notamment au niveau du porno.
Bah, au niveau de la pornographie, évidemment, parce que ça peut complètement traumatiser un enfant de voir des images, surtout quand il n'est pas prêt à les voir, quand il n'a pas envie, c'est pas lui qui a décidé, mais c'est les copains qui montrent, et souvent, s'il y a des traumatismes qui naissent de ces expériences-là. Mais quand on achète un téléphone à son enfant de 12 ans, eh ben, le téléphone, il doit être réglé en fonction d'un âge. Et ça doit pas être le parent qui décide combien de temps il peut passer, ce qu'il peut regarder. Ça doit être directement réglé par l'opérateur. Parce que comme ça, au moins, ça permettrait aux parents de se sentir beaucoup plus rassurés, de ne pas avoir à se poser de questions.
Et la culpabilité tout le
voilà,
temps.
Voilà, on achète un téléphone à un enfant. Et quand on achète un téléphone à un enfant ou qu'on achète un écran à un enfant, et ben cet écran, il est réglé de base par l'opérateur pour l'enfant.
On n'est pas aidé. C'est vrai que normalement, c'est quelque chose qu'on pourrait un petit peu reléguer au rôle de l'État.
Ça va venir, je pense. Mais
j'espère,
en tout cas, voilà.
Mais tu parles aussi pas mal de choses numériques intéressantes. Ça, c'est super parce qu'on voit que tu te sers d'outils numériques. Et d'ailleurs, tu as des partenariats aussi. Ça y est, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui te contactent parce que ta voix compte.
Bah, j'ai la chance d'être contactée par des entreprises et des institutions qui vraiment font un travail super. Ça peut être pour les enfants du patrimoine, pour faire découvrir aux enfants le patrimoine.
Ça, c'était exceptionnel, une chasse au trésor.
Ouais, du patrimoine du quartier.
Dingue.
C'est génial. Franchement, j'ai beaucoup de chance parce que je suis contactée par des gens, et j'accepte les partenariats qui ont vraiment du sens et qui peuvent aider les enseignants, les parents, etc. Donc voilà. Et puis
la Poste aussi.
La Poste, oui, sur les usages numériques. Bah, bientôt, la Poste mobile va ouvrir des ateliers de formation pour les ados et les parents. Encore avec un aspect de découverte du numérique pour que ça soit pas culpabilisant, mais juste que ce soit, comme on vient d'en parler, que ce soit informant.
D'accord. Pour revenir, bon, j'arrête pas de te dire que t'es spinoziste, je sais pas si tu le sais, parce que je sais que t'aimes la philo aussi. Il y a ce truc-là de sagesse en toi innée et de joie. Donc, pour moi, c'est le moteur de tout, la joie. C'est ce qui donne le désir d'arrêter de consommer quelque chose parce que justement, on a envie d'augmenter sa puissance vitale, son énergie. On a plus envie de la perdre quelque part. Et je sens que tout ce que tu fais, tu le ramènes à la joie, à l'utile et au sens. C'est comme ça aussi qu'on guérit des addictions. Et toi, tu le fais dès la classe de CE2 avec tes élèves, j'imagine que ces élèves-là seront vraiment armés, selon moi. Comment tu leur enseignes la joie ? Comment ça vient ?
Beaucoup en chantant.
Ouais.
On chante énormément. Moi, je viens d'une famille de musiciens. La musique, elle a toujours une place très importante dans ma vie. Et ça a été aussi un remède très, très, très fort pour me sortir des moments de désespoir.
Mm-hmm.
Donc, on chante énormément. On rit beaucoup. L'humour, moi, ça m'a beaucoup permis, et la dérision en classe, de désescalader des situations qui étaient parfois tendues avec certains élèves, de décharger des tensions. Il peut y avoir parfois des tensions qui s'accumulent au fil de la journée, et on peut les décharger comme ça, avec une blague, en riant ensemble de nous-mêmes. L'autodérision, c'est génial.
C'est génial de parler de décharger, c'est-à-dire que souvent l'addiction, on dit que c'est comme si on était un ballon qui gonflait, et le produit, c'est l'aiguille qui vient soulager, percer, genre dégonfler. Et quand tu dis que tu décharges...
Bah, l'humour, il fait ça.
Il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose.
Bah oui, parce qu'en fait, on libère tout de suite de la joie comme ça, et ça vient nous montrer...
Pure.
De la joie pure, et ça vient nous montrer aussi la futilité de ce moment qui était pour nous hyper important il y a 5 secondes et qui finalement peut être vu tout à coup sous un autre œil. Et
la légèreté.
Exactement. Ça, il peut y avoir, par exemple, certains comportements d'élèves qui sont drôles, en fait, et qu'on va souligner avec, évidemment, beaucoup d'amour et de joie, et on le fait tous ensemble. On se moque pas, mais on souligne certaines petites manies ou certaines paroles. Quand un élève va tout le temps prendre la parole et que je vais lui répondre « Maîtresse, 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 Raphaël, 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 Raphaël. » Et je lui réponds comme ça. Et en fait, ça fait rire et ça leur fait se rendre compte aussi qu'ils ont peut-être demandé 1000 fois. Et moi, au lieu de m'énerver, ça va me faire rire. Et ça, je l'utilise beaucoup. Et puis après, je sais que apprendre dans la joie, c'est le moyen le plus puissant d'ancrer véritablement les apprentissages. Donc la joie, c'est, il n'y a pas d'autre moyen en fait. L'enfant, il est fait pour apprendre. Dès qu'il est né, il apprend en fait, dès les premières secondes de vie.
Mais comment on apprend dans la joie? Est-ce que par exemple, tu parlais de la méthode Montessori, moi j'ai l'impression que pour apprendre dans la joie, il faut expérimenter.
Il faut expérimenter, c'est toujours...
Plus que le par cœur, quoi. Pourquoi est-ce qu'on apprend encore par cœur les choses? Moi j'ai vu comment tu fais apprendre les tables de multiplication. C'est pas du par cœur, c'est genre c'est joyeux et puis tu apprends des systèmes. J'ai vu aussi comment j'ai appris à calculer par la méthode de jalousie.
Par jalousie là, ils adorent.
Ou la méthode arabe, le calcul arabe. Ouais. Alors j'ai appris des choses, je me dis mais je voudrais être dans ta classe.
Bah ça par exemple, alors une chose qui fonctionne super bien, c'est leur faire découvrir des apprentissages comme si c'était des secrets.
Wow.
Et leur dire, alors là, peut-être que ça, vos parents y connaissent pas, ou peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, et leur montrer comme ça, comme une porte secrète qu'on a ouverte, et
un
derrière
trésor.
Cette porte, il y a un trésor, et on le découvre ensemble. Ça, c'est très très puissant.
Wow.
Et c'est puissant parce que c'est comme ça, en fait, qu'on découvre les choses dans la vie. Et
oui, par c'est exemple, vrai, quand on apprend les choses depuis tout bébé, c'est toujours un trésor, c'est toujours la première fois, c'est toujours fou.
Quand on apprend du vocabulaire, les mots qui sont... les mieux retenus sont les mots les plus complexes,
ouais,
les plus compliqués. Les mots sur lesquels on a, par exemple, desquels on a étudié l'étymologie. Je travaille beaucoup l'étymologie aussi avec les élèves parce que je me dis que c'est ça qui compte, qu'ils comprennent comment se construit un mot, qui a une racine latine ou une racine grecque, que les mots les plus savants, ils vont plutôt avoir des racines grecques plutôt que latines.
Oui, mais tu leur apprends pas, tu leur fais comprendre seul. C'est-à-dire quand d'un coup tu découvres les nouveaux mots qui ont été rentrés dans le Larousse, tu leur mets éco-geste au tableau et tu dis qu'est-ce que vous voyez comme mot ici? Donc, et ils écrivent tous sur leur ardoise.
Ouais.
Bah, ça doit être un geste qui est écologique.
Ouais.
C'est extraordinaire. Il y avait un autre mot, j'étais mort de rire. C'était quoi ce mot? Il disait des choses.
Badiste.
Badiste.
Ça veut dire
se
sentir mal parce que bad en anglais, ça veut dire
alors
mauvais.
Alors que c'est un joueur de badminton.
Et
ça, c'est rentré dans la langue française. Donc, tu leur apprends les nouveaux mots. Non, mais attends, c'est incroyable. Les parents, ils doivent te bénir.
Ça se passe, j'ai une très bonne relation avec les
tu
parents.
Tu m'étonnes.
Je suis
ils t'invitent, ils te font des beaux cadeaux quand même
mais
à la fin de l'année.
Parce que en fait, c'est une alliance, c'est l'alliance éducative. Dans cette alliance-là, il y a les enfants, ils doivent adhérer au cadre. Ça aussi, c'est très important d'essayer d'imposer un cadre sans adhésion de la part de la classe, ça ne fonctionne jamais.
Ah ouais.
L'enseignant, il est partenaire de ses élèves dans toute l'année scolaire. Et donc, en fait, les enfants, au début de l'année, quand on va commencer à fixer le cadre ensemble, ils doivent y adhérer tous. Parce que celui qui n'adhérera pas à ce cadre, il n'écoutera pas, il ne participera pas et il ne fera pas partie du groupe. Et donc, en fait, l'autorité, c'est aussi une question d'adhésion. Ils doivent accepter qu'on a de l'autorité sur eux parce qu'on est leur enseignant. Donc, ils doivent nous faire confiance. Ils doivent pouvoir voir en nous une figure qui va garantir la sécurité de tous les élèves, qui va garantir des apprentissages heureux. Et c'est comme ça qu'on arrive à garantir tout au long de l'année une classe dans laquelle l'ambiance est harmonieuse. Parce que une classe et un environnement dans lequel l'ambiance n'est pas au rendez-vous, les élèves n'adhèrent pas à la manière de faire de l'enseignant, c'est une souffrance toute l'année.
C'est un microcosme de la société, donc c'est génial. Déjà, ils apprennent à vivre dans la société. Et surtout, parfois, ça vient se substituer à des carences familiales, parce que les parents, il n'y a pas d'études pour ça.
Bah
et
oui.
Que souvent, on fait des enfants et puis on n'était pas doué pour, ou on n'y arrive pas, ou alors on n'est pas dans un état de santé mentale qui nous permet. Donc je pense que c'est énorme de pouvoir se substituer parfois à des carences aussi.
C'est sûr que c'est le rôle et ça, il faut aussi en prendre conscience quand on devient enseignant.
On a une chance folle aussi en France d'avoir l'école gratuite. Enfin, on tape beaucoup sur l'école. Alors toi, tu n'aimes pas ça aussi parce que tu as envie qu'on aime l'école.
Bah moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance quand même d'être dans un système, même si qui a ses problèmes, c'est sûr, et qui peut causer de grandes souffrances parfois aux élèves et aux enseignants. Mais on peut avoir ça. Enfin, moi, c'est aussi pour ça que j'ai ma page, parce que j'ai envie. Et très souvent, je reçois des messages. Tu m'as donné envie de devenir prof.
Wow,
en fait, je vais me reconvertir et tout. Bah ouais, mais c'est génial parce que
moi, si je refaisais mon métier aujourd'hui, après avoir vu tout ce que tu fais, je ne le ferais jamais de la même façon. C'est très important que les parents puissent aller voir ta page, les enseignants et tous les éducateurs, toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants. Le rôle qu'on a et la responsabilité est trop grande.
Et c'est pour ça que, encore une fois, la joie est très importante parce que c'est une responsabilité qui est tellement grande qu'il n'y a qu'une seule manière de pouvoir la porter au quotidien, c'est dans la joie et la légèreté. Il faut se rappeler qu'on est là, on fait ensemble. Et puis en plus, les enfants ne sont pas rancuniers. Donc, même quand on se trompe, même quand il y a un jour où on peut être un peu plus dur que d'habitude, parce que c'est dur, c'est la fin de l'année, etc. Ils reviennent le lendemain, ils ont remis à zéro leur système. Et ils sont, quand ils voient que tout ça, c'est sincère, c'est vrai, qu'on le fait pour eux, ils sont tellement reconnaissant, c'est une reconnaissance immense et infinie en fait. Ils vont pas venir dire mais la maîtresse elle a dit ça. En fait, ils adhèrent complètement de manière générale au système qu'on a établi au début de l'année. Mais en fait, pour ça, il faut être sincère.
Mais tu viens justement apporter des valeurs qui sont essentielles. D'ailleurs, qu'on découvre chez les groupes de dépendants, il y a des programmes très importants en 12 étapes. J'en parle beaucoup ici, spirituels, et qui viennent mettre des valeurs d'humilité, d'honnêteté, et en fait, la gratitude, c'est un sentiment à cultiver pour pas être justement dans la plainte et dans l'apitoiement qui lui amène à la colère et à la consommation en général. Et il y a aussi ce lien. Donc, on dit que c'est la maladie du lien, l'addiction. Le lien que tu viens de parler, tu crées quelque chose. Et tu sais quand même, malgré tout, que malgré toutes les décorations, les affichages que tu vas mettre dans ta classe, tu sais que ce qui compte réellement, c'est le lien que tu vas créer avec tes élèves.
Bah oui. Et là, en fin d'année, c'est vrai que c'est ça qui va rester.
T'es un peu émue, là.
Bah oui, parce que c'est tellement fort c'est tellement fort comme expérience de vivre toute l'année avec des élèves. Et là, c'est vrai que je suis tellement heureuse d'avoir enseigné cette année parce que, particulièrement cette année, les élèves sont tous rentrés dans la lecture. J'ai beaucoup de mes élèves qui ont surmonté des gros problèmes de confiance en eux, qui sont fiers de leur travail, qui me disent « Maîtresse, je suis capable en fait, j'ai réussi, je suis trop content maintenant, je sais vraiment bien lire. » Alors que en rentrant en CE2, bah, c'était quand même super difficile pour eux, qui s'auto-félicitent, qui ont pris
la
confiance.
La fierté, juste de l'estime, de la confiance.
Ouais, qui sont plus du tout... J'avais des élèves assez parfois turbulents, qui sont juste bien en fait en classe maintenant et qui ont gardé leur énergie de vie et parfois c'est des troubles hein, ça peut être des troubles de...
Ah bah tiens, voilà, j'aimerais bien qu'on en parle aussi déjà bon, de ta façon de demander le silence et comment tu gères justement le calme et la concentration dans ta classe et comment est-ce que tu gères aussi les nombreux enfants qui aujourd'hui sont diagnostiqués troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Alors moi je suis vraiment preneuse de diagnostic. Je trouve que quand il y a un diagnostic, c'est toujours mieux parce que les choses sont claires. Je ne suis pas une spécialiste, parce que moi, mon métier, c'est l'enseignement, mais j'entends plusieurs sons de cloche, donc certains qui disent qu'il faut plus diagnostiquer, d'autres qui disent qu'on diagnostique trop les élèves. Moi, personnellement, à titre personnel, pour l'instant, ça peut encore changer, mais je suis contente lorsque un diagnostic est posé parce que il me permet, moi, d'adapter vraiment mon enseignement à l'élève. Et c'est toujours mieux quand les choses sont claires, sont établies, qu'on ait une équipe, en fait, autour d'un enfant. C'est mieux pour l'enfant et pour les parents. Parce qu'il y a aussi beaucoup de parents qui n'osent pas aller faire des tests, qui n'osent pas demander de l'aide parce que ils sont dans le déni. Et je peux les comprendre. C'est pas facile d'accepter que son enfant puisse avoir un trouble. Et c'est pas forcément... Alors, on a beaucoup l'image des parents qui vont surdiagnostiquer, qui vont tout expliquer par le trouble, mais il y a aussi plein de parents qui ne veulent pas le voir parce que c'est très dur de l'assumer. Et moi, je les encourage à faire les tests.
D'accord.
Parce que pour un enseignant, c'est mieux. Pour l'enfant, c'est mieux. Une fois qu'on a diagnostiqué un enfant qui peut avoir des troubles de l'attention et de l'apprentissage, une fois qu'on sait qu'un enfant fonctionne différemment, un fonctionnement différent, bah nous, on peut s'adapter en classe. L'enfant, il le sait, donc il ne se sent pas stigmatisé. Il se sent au contraire pris en considération. Il a l'impression qu'on le voit, qu'on ne le juge pas parce qu'il n'arrive pas à rester assis tout le temps, parce qu'il ne peut pas rester assis tout le temps. Et c'est tellement mieux. Et c'est comme ça que ces troubles-là sont mieux pris en charge. C'est en faisant confiance à l'alliance éducative, aux autres spécialistes qui ont fait les bilans.
Et les médicaments là-dedans?
Alors, il peut y avoir effectivement parfois des prises de Ritaline, etc. Moi, je préfère toujours d'éviter en fait ce stade-là, même si ça peut évidemment vraiment être un soulagement pour certains enfants, certains parents. Moi, je pense qu'on peut s'en passer quand on le prend en charge assez tôt, quand on informe l'équipe pédagogique, quand on parle avec les parents, qu'il y a un véritable lien, qu'on sait comment ça se passe. Dans ces cas-là, ça peut être évité. Maintenant, il y a des cas dans lesquels c'est pas possible de l'éviter. Alors dans ces voilà.
On avait reçu le professeur Nader Perrou, qui a écrit deux très beaux livres sur le TDAH et le borderline d'ailleurs. le trouble borderline. Et en fait, il disait qu'en effet, à partir du moment où déjà c'était pris en considération très tôt et que toute la famille, en fait, il fallait que ça soit validé par l'entourage.
Bien sûr.
Et quand la famille disait à l'enfant, j'ai compris que tu n'avais du mal et que tu pouvais pas t'asseoir à table, rester longtemps. Et en fait, aujourd'hui, on a quand même cette chance qu'on n'est plus là à dire, tu bouges pas de table. Enfin, c'est très rare, ça n'arrive plus trop. Il y a plus cette autorité là, quoi.
Beaucoup plus
forcé.
Beaucoup plus qu'on ne le pense.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, on connaît pas. Moi, j'ai l'impression que je peux plus forcer un enfant à rester à table. Mais il y a aussi autre chose. Je pars un peu dans tous les sens. Là, c'est les devoirs. Et la place aussi assise, la posture assise. Alors, parce que je fais partie des enfants et des adultes qui sont incapables de rester assis. C'était pour moi une torture de rester assise avec les deux jambes posées par terre.
Bah ça encore, c'est en fait c'est un subtil mélange, la classe, de cadre et de liberté. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un cadre dans lequel on sait ce qui se passe, on sait comment vont se passer les apprentissages, on est en sécurité, et à la fois, on doit pouvoir être libre de ses mouvements quand même. On doit pouvoir prendre en considération les besoins vitaux classiques. Moi, ça m'a toujours beaucoup choqué que certains enfants ne puissent pas aller aux toilettes. Enfin, c'est quand même assez aberrant de refuser d'aller aux toilettes. Et surtout que, alors, on peut apprendre aux élèves à y aller pendant les pauses, etc., pour ne pas déranger le cours. Mais en vérité, qu'un élève aille aux toilettes pendant un apprentissage, ça ne dérange pas non plus. Outre mesure, c'est pas insupportable comme dérangement.
Mais en fait, tout dépend de ce que tu as créé avant. Moi, je vois qu'il y a des cours où les enfants s'ennuient. Ils font que boire de l'eau et demander à aller aux toilettes parce qu'ils veulent partir. Après, comme toi, tu as créé un cadre où les enfants sont heureux d'apprendre. S'ils ont envie d'aller aux toilettes,
Tu les crois. Je les crois. Ça, c'est aussi super important de les croire quand ils disent quelque chose. De ne pas penser qu'ils essaient de nous manipuler, qu'ils essaient de nous tromper, qu'ils essaient de nous mentir. Parce que c'est un biais aussi qu'on a beaucoup, nous les adultes, que les enfants sont quelque part un peu vicieux, qui vont essayer de nous mentir, qui vont essayer de nous tromper. Et ça rappelle un petit peu finalement les biais qu'on a vis-à-vis des femmes aussi. Parce que c'est exactement les mêmes préjugés qu'on a. Femmes et enfants sont exactement dans le même bateau. Une des rhétoriques principales du sexisme, c'est ça. Les femmes, elles sont vicieuses, elles vont tromper, elles vont cacher, elles vont dissimuler. Et c'est aussi comme ça
alors
qu'on voit les enfants.
Alors que l'homme, il les cache. Hein.
Voilà.
Il est monotache aussi.
Il ne sait faire qu'une seule chose à la fois, le pauvre.
Non, mais donc, c'est au-delà de la posture assise ou des devoirs aussi trop chargés. Ce que j'aime, c'est aussi tout simplement la façon de laisser les enfants rester des enfants. Parce que s'ils n'ont pas le temps de jouer, ce n'est plus des enfants.
Bah, c'est pour ça que... introduire dans l'apprentissage le jeu, c'est essentiel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les recherches en neurosciences montrent que on apprend mieux quand on joue, on apprend mieux quand on chante, on apprend mieux quand notre cerveau libère de la dopamine, quand on est heureux d'apprendre. Et c'est comme ça que s'ancrent véritablement les apprentissages. Et aujourd'hui, la recherche en neurosciences, c'est ça qu'elle nous montre. Et on en est de plus en plus sûr. De nombreuses recherches vont dans ce sens. Tous les résultats convergent quelque part pour nous montrer que rester assis pendant 3 heures avec un apprentissage très passif, ça ne fonctionne pas. Et même s'il y a en ce moment une sorte d'air de nostalgie de l'école, c'était mieux avant, on retient, notre cerveau n'est pas fait pour apprendre de cette manière. Si l'apprentissage peut se transformer en joie, s'il y a un véritable désir, parce que c'est aussi du désir dont il s'agit, désir d'apprendre, alors c'est comme ça qu'on va réussir à amener les enfants vers un apprentissage qui a du sens pour eux, qui va leur permettre de faire des choix dans la vie, de choisir leur métier, de choisir leur voie, de choisir l'endroit dans lequel ils ont envie de s'épanouir. C'est quand même pour ça qu'on est là. D'accord ? Une société qui fonctionne bien, c'est une société dans laquelle les enfants sont heureux d'être des enfants et ont hâte de devenir des adultes. Donc oui, bien sûr que dans les apprentissages, moi j'essaie toujours de réfléchir à ce que ça va leur susciter comme émotion.
En fait, il faut leur donner cette impression que c'est une drogue. En fait, disons qu'à partir du moment où ça devient une drogue, et une drogue positive, on va dire, entre guillemets, ça ancre en eux que le fait d'apprendre quelque chose va leur procurer cette dopamine, va les rendre heureux. Et donc, c'est un cercle vertueux dans lequel ils vont rentrer et avoir envie toute leur vie d'apprendre, d'ouvrir des livres. Parce que moi, je vois dans ta classe, ils ont une joie quand tu leur ouvres un livre.
Mais les livres, c'est la lecture, c'est vraiment ma plus grosse fierté de cette année, parce que c'était... mon objectif, j'avais un objectif principal, c'était vraiment que tout le monde aime lire et lise cet été et donner envie et le goût de la lecture à tous les élèves, parce que je sais que quand dans la vie, lire, c'est quand même un luxe incroyable. Quand on aime lire, notre vie est plus riche.
Moi, c'est ma drogue dure aujourd'hui. Donc, chacun trouve sa joie où il veut dans les livres. Mais moi, par exemple, c'est les livres dans lesquels j'apprends, que ce soit histoire, philo, psycho. Mmh. Il y a des gens, c'est les romans parce qu'ils s'évadent. Ouais. Qu'est-ce que toi, pour terminer, parce qu'on pourrait parler des heures, c'est vraiment passionnant. Et de toute façon, tout le monde ira voir ce que tu fais parce que c'est vraiment, vraiment extrêmement utile, le travail que tu réalises. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des parents ou à des enfants, justement, pour cette rentrée? Qu'est-ce que tu conseillerais aux parents et aux enfants qui, justement, ont perdu ce goût de la lecture, n'arrivent pas à faire prendre ce goût-là à leurs enfants?
Alors, la première chose que je conseille quand on a des enfants qui ne veulent pas lire ou qui n'aiment pas lire, c'est de leur lire. Donc, lire à voix haute des livres à la maison, dans un rituel, soit tous les matins, soit tous les soirs, soit tous les dimanches, lire ensemble. Comme une sorte de rituel, on s'assoit en tailleur, ou on se met dans le lit, ou on va lire ensemble un livre en entier, on va découvrir l'aventure ensemble. Ça, c'est la première étape. Et si vous faites ça pendant assez longtemps, ben, ça devrait susciter de manière naturelle l'envie de lire chez vos enfants. Au début, ça va être à tâtons, est-ce qu'ils vont vraiment s'intéresser? Et ensuite, ils vont avoir envie de continuer sans vous. Ensuite, ils vont avoir envie de eux lire. Les laisser lire aussi, les laisser prendre des passages, même s'ils lisent lentement, les laisser déchiffrer. S'ils n'arrivent pas trop à déchiffrer, les laisser lire un court passage pour ne pas les dégoûter. Et lire ensemble. Toutes les semaines, lire ensemble. Parce que la lecture...
C'est-à-dire même chacun de son côté.
Soit chacun de son côté, soit tous ensemble à voix haute.
Des moments où la famille lit.
La lecture offerte, c'est comme ça qu'on l'appelle en classe, la lecture offerte, quand l'enseignant lit à ses enfants. Oui. Waouh, beau lapsus.
Ça finit bien, ça.
Quand l'enseignant lit à ses élèves. C'est une magnifique expression parce que c'est vraiment un cadeau, la lecture. Donc, faire ce cadeau-là à ses enfants, de lire. Et c'est ça qui va réveiller ce véritable désir. Parce que quand on se met dans la peau d'un lecteur et qu'on voit les autres nous écouter et on les voit créer dans leur tête les images, mais il n'y a pas de plus beau moment. C'est merveilleux, vraiment.
Mais ces moments sont volés un petit peu par les écrans, la facilité d'aller voir des vidéos plutôt que d'aller chercher un livre. C'est plus ça qui est difficile aujourd'hui, parce que moi je vois mon fils adore lire, mais il préfère quand même l'écran. Et quand je lui enlève le téléphone pour une raison et pour une autre, il va naturellement aller chercher... il est plus dans les BD. Donc toi, t'es d'accord aussi pour ça,
n'importe
de tous les supports de lecture.
Tous les supports, les magazines, les BD,
voilà, les cahiers d'Esther, je peux vous dire, c'est le rêve de tous les ados. Ouais. Mon fils, depuis les 10 ans d'Esther jusqu'aux 18 ans, c'est aujourd'hui, de savoir que c'est le dernier tome de Riyad Satouf, il en a pleuré. Ouais. Mais voilà, il va se mettre au piano, il va ouvrir un livre, tout ça parce qu'il a été puni d'écran, c'est triste.
C'est là où, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, mais le contrôle, c'est-à-dire de fixer de véritables limites sur les téléphones. D'accord. Et faire un vrai contrôle, ne pas penser que les enfants peuvent eux-mêmes se réguler. Si nous, on a du mal à le faire, évidemment, a fortiori, eux aussi auront du mal à le faire. Donc, fixer ce cadre-là qui est essentiel. Et ensuite, et laisser opérer la magie de tout ce qui peut se passer ensuite quand on a du temps.
Trop bien. Aussi. Merci beaucoup, Anna. En tout cas, tu nous donnes de l'espoir pour l'avenir des enfants et de l'enseignement. Tu m'as réconciliée avec l'éducation nationale. Tu as eu ton concours, là.
Oui, cette année.
C'est merveilleux. C'est-à-dire que là, tu étais en école privée, tu peux enseigner où tu veux.
Là, j'étais surtout contractuelle. Tous les ans, mon contrat se renouvelait et c'était beaucoup plus précaire. Et cette année, je me suis engagée à vie.
Félicitations. Félicitations.
Merci.
Et vraiment, les élèves qui vont... être dans ta classe les années prochaines seront les plus chanceux. Voilà.
Merci beaucoup pour l'invitation, c'était un très beau moment.
C'était vraiment incroyable, merci beaucoup.
Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre. Un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.
C'était l'émission Contradiction avec Rose sur IDFM Radio. Rendez-vous lundi prochain de 21h à 22h. Retrouvez le podcast sur rose-lecite.fr et idfm98.fr.
IDFM Radio, 98FM.
de fermer les fenêtres. J'ai froid dans mon petit être qui s'habille de peut-être. Je pense à toi. Je ne rappelle plus personne. Que tous mes potes me pardonnent. Mais y a que ton nom qui résonne. Je pense à toi. Tous ces souvenirs que je traîne, ils insistent pour que tu reviennes. Je suis moins forte que tu crois. J'ai le cœur sans voix et je pense à toi. Je revois chacun de tes gestes. Tu veux pas lâcher du lest. Que je t'aime, que je te déteste. Je pense à toi. On voulait faire un album. Des photos à Barcelone. Putain, qu'est-ce que je me sens conne. Je pense à toi. Tous ces souvenirs que je traîne, ils insistent pour que tu reviennes. Je suis moins forte que tu crois. J'ai le cœur sans voix et je pense à toi. Fais comme pour tes cigarettes. Y'a même pas besoin d'allumettes. Fais-moi rouler sous tes doigts. Rallume-moi. L'amour c'est comme un manège. La fête est toujours trop brève. Un deuxième tour pourquoi pas. Si tu penses à moi. Si tu penses à tous ces souvenirs que je traîne. Ils insistent pour que tu reviennes. Je suis moins forte que tu crois. J'ai le cœur sans voix et je pense à toi.
Love.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Tu m'as dit nous c'est différent, ouais. Nous c'est pas la même chose, nous c'est pas comme les gens. Oh, oh nous c'est important, ouais. Nous c'est pas comme les autres, nous sert du temps. T'es entré dans ma vie comme on entre dans un saloon. Ça s'est passé très vite quand tu m'as coupé le souffle. Tu n'as plus vu la foule, seulement tes grands yeux. J'ai bousculé les clowns et les crachères de feu pour approcher ton cou, pour te voir un peu mieux. Tu m'as dit est-ce que c'est fou d'aimer jouer avec le feu. Je n'ai rien répondu, j'avais avalé ma voix. Tu m'as dit ça ne fait rien, j'ai vu tout ce que j'avais à voir. Tu m'as dit nous c'est différent, ouais. C'est pas la même chose, nous c'est pas comme les gens. Oh, oh nous c'est important, ouais. Nous c'est pas comme les autres, nous c'est hors du temps. Parle-moi de ton job, quels sont tes passe-temps. On a balayé tout ça, on a tué l'adulte dans l'enfant. Pour nous éteindre à jamais, on fout une balle en argent. Ce soir la ville est pleine mais elle penche énormément. Je n'ai pas d'alibi, la nuit où ma vie est tombée raide du mauvais côté du lit. Autant d'amants que j'aurais d'ennemis, autant d'aimants qui t'aiment à demi. Nous c'est différent, ouais. Nous c'est pas la même chose, non. Nous c'est pas comme les gens. Oh, oh nous c'est différent, ouais. Nous c'est pas la même chose, oh, nous c'est pas comme les gens. Oh, oh nous c'est important, ouais. Nous c'est pas comme les autres, nous c'est hors du temps.
Avec maladresse, y'a que moi qui peux mettre KO, envoûté par la vitesse. Je désire tout faux, que tout de moi chavire, ivre de mes défauts, aimer ce qui me déchire.
Faire taire les rumeurs, et j'en veux encore un peu plus. petit peu plus. J'en veux encore.